aujourd'hui sans faute.
Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami.
Bonjour à tous, aujourd'hui sans faute, aujourd'hui je reçois Maëlle Marchand dans notre émission qui, je le rappelle, est dans le fil rouge de la langue française et de l'orthographe sur Contact FM cette année et qui se clôturera par une dictée géante que nous organiserons en fin d'année. Bonjour Maëlle.
Bonjour.
Maëlle, vous êtes une femme de lettres ? Ah bah oui. Vous avez un master d'anglais, donc langue française, mais aussi bonne connaissance des langues étrangères, une licence de projet culturel. Vous êtes née à Château-du-Loir, il y a quelques années, en 1986, vous êtes très jeune. Et puis vous avez commencé dans le théâtre, puis correspondante de presse. Ensuite, vous avez eu une mission d'AESH, vous êtes occupée d'enfants en difficulté pour devenir institutrice depuis 2 ans. Vous occupez des CM1, CM2 au Sablon, mais aussi au Lude et puis ponctuellement à Aubigny-Racan et à Malicorne. Donc vous avez un œil particulier puisque vous voyez aussi l'apprentissage de l'orthographe et de la langue française au travers des enfants. C'est une vraie mission ça.
Tout à fait, oui, c'est même une des premières de nos missions. C'est de leur apprendre à lire, à compter, mais surtout à écrire également, oui.
Et comment ça se passe? On dit que le niveau baisse, c'est vrai ou c'est pas vrai?
Ça dépend du point de comparaison sur lequel on se base, mais effectivement, c'est vrai que il y a énormément de règles d'orthographe, énormément de choses dans les programmes, et c'est vrai que c'est assez conséquent, donc faut arriver à trouver le temps à l'organisation pour vraiment passer le temps nécessaire pour aller faire progresser le plus possible. Voilà, pour pas que le niveau baisse, justement.
En tout cas, c'est une noble mission que de s'occuper de l'apprentissage de la langue, de l'orthographe, mais aussi de toutes les autres matières, l'histoire, la géographie, les mathématiques.
C'est le métier même des instituts, des profs des écoles, en fait, c'est qu'on est prof de plein de matières.
Voilà. D'ailleurs, institutrice, je trouve que c'est un très très joli mot. On dit maintenant professeur des écoles, c'est quoi votre préférence?
Moi, je préfère le mot institutrice, mais après, c'est vraiment une histoire de fonction. C'est tout simplement que maintenant, en fait, si vous avez le concours, vous êtes professeur des écoles, dont le but premier, en fait, était de nous mettre, en gros, sur le même pied d'égalité que les profs au collège. Voilà. Ouais. Et en fait, on fait tous le même métier, on enseigne.
Oui, c'est des questions administratives.
Tout à fait.
Mais en tout cas, le mot instituteur, institutrice, est un joli mot.
Moi, je préfère ce mot-là aussi également. Oui, oui.
En quoi êtes-vous attaché à la langue française ?
Bah déjà de par mon métier, c'est sûr qu'on travaille avec la langue française tous les jours et puis parce que c'est quand même un sujet très important et qui permet également voilà, de faire plein de productions différentes, tant par des lettres que par ne serait-ce que des textos, des mails. On en a besoin, régulièrement de la matière de l'écriture, du français, de l'orthographe. Donc c'est la base de bien des domaines.
Et comme vous avez été aussi correspondante de presse, il y a la notion rédactionnelle.
Oui.
Donc vous portiez toujours attention à la langue française, parce que c'est vrai que parfois on critique les journalistes sur leur style, etc. Vous aviez un rapport particulier avec l'écriture ?
Oui, c'est quelque chose que j'aimais bien mettre en avant à l'intérieur des articles. Et c'est vrai que souvent... Le chef de rédaction me disait « Maëlle, c'est chouette parce qu'on n'a pas grand-chose à corriger quand tu nous fais des papiers ». Donc moi, j'étais plutôt contente. Je me disais « Bon, il n'y a pas de faute à tous les mots, c'est plutôt bon signe ».
Et du coup, quel est votre rapport à l'orthographe ? C'est quelque chose d'important pour vous ?
Oui, c'est très important et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup et sur lequel j'accorde beaucoup d'importance.
Et j'imagine que vous étiez bonne en français à l'école ?
Plutôt oui.
C'était une de vos matières de prédilection ? Vous étiez plutôt français que maths ou...
Ah bah maths, c'est niveau comment dire, niveau très bas. À l'époque, je me suis améliorée depuis, mais non, j'ai toujours vraiment aimé le français et les langues.
Et
depuis toujours.
Est-ce que vous avez un souvenir de dictée ?
Oui, je me souviens des dictées que je faisais en CE2. On avait une dictée tous les jours, donc de quelques lignes en fait, des dictées quotidiennes. Et quand on avait bien réussi, en fait, la maîtresse, elle passait avec son encrier et son tampon. Et elle nous faisait un petit tampon sous les 2 ou 3 phrases que nous avions rédigées. Et quand c'était bien, on avait le droit de le colorier. Donc là, c'était le graal.
C'était le graal.
Là, ouais. C'est qu'on avait vraiment bien réussi et bien travaillé. Donc c'était...
Ça existait encore à votre époque, jeune comme vous êtes?
Oui, ça existait encore.
Et du coup, puisque vous êtes jeune, est-ce que si je vous dis Becherel, ça vous dit quelque chose?
Oh, oui. Ça me dit 2 choses différentes. Ça me dit un petit bouquin qui est toujours sur mon bureau, voilà, vers lequel j'envoie mes élèves quand ils me demandent comment on conjugue tel verbe ou tel verbe. Mais de par mon côté passionné de voyage et de vagabondage, ça me parle aussi d'un joli petit village en Bretagne, petit village des libraires et
bien connu pour ses librairies, voilà. Effectivement. Becherel, la Bible de la conjugaison qu'on a tous connue, et ça existe encore aujourd'hui ?
Ah oui, on se réfère dessus pour les exercices et tout, très souvent.
Les enfants en ont, oui. Ont leur Becherel ?
Oui.
Et le Bled, vous vous rappelez du Bled ?
Oui.
Ça existe encore ?
Toujours, moi ils en ont un aussi.
Ah bah c'est formidable.
Il y a parfois des techniques ancestrales qui fonctionnent très bien, donc inventer, innover c'est super, mais se baser aussi sur les fondamentaux qui marchent depuis des décennies c'est bien aussi, enfin,
c'est
selon
vrai. Puis du coup,
mon avis.
Ça crée des référentiels de génération en génération, on peut aller voir le grand-père ou la grand-mère,
voilà.
Il saura de quoi on parle.
Voilà.
Quel est votre mot préféré de la langue française ?
J'aime beaucoup le mot médiéval.
Médiéval.
Médiéval, oui.
Parce que ça sonne bien.
Bah parce que ça me renvoie tout de suite au Moyen-Âge, aux mythes, aux contes, aux légendes, aux châteaux, à la vieille pierre, je sais pas, je trouve ce mot médiéval, oui voilà, là c'est la période médiévale.
Et quand vous étiez enfant, vous étiez fanat des contes, toute cette période-là ?
J'ai toujours bien aimé, oui, tout ce qui,
le
tout
syndrome
qui fait
de
travailler...
La princesse.
Alors pas trop la princesse, moi j'étais plutôt attirée par les justiciers, comme voilà, ceux qui prenaient aux plus aisés pour redonner aux
Robin
plus malheureux, un peu Robin des Bois, voilà.
Les proches chevaliers.
Voilà, j'étais plus, impressionnée par les chevaliers plutôt que par les princesses qui, à mon sens, n'avaient pas le rôle le plus remarquable.
C'était les influenceuses de l'époque, en
ouais,
fait.
Ouais, voilà, bah moi je dis toujours les influenceuses, c'est pour les influençables, donc ça me glisse un peu sur le dos, mais non, j'ai toujours été admirative, voilà, des contes et des légendes et des récits d'aventure, donc c'est pour ça que médiéval, ça me plaît comme mot.
Et puis c'est vrai que c'est la base aussi des mots, hein, l'héritage de notre vocabulaire.
Bah, puis c'est là où on a commencé vraiment à publier des livres aussi. Donc,
Est-ce que vous avez de l'indulgence pour les fautes d'orthographe ?
Ah bah, en tant que maîtresse, en tant qu'instit, vaut mieux, parce que sinon on risque
ce serait trop dur.
Vite de s'agacer, mais oui.
Et est-ce que c'est un stress personnel du coup pour vous en tant qu'institutrice, si vous écrivez au tableau, vous êtes toujours en veille de ne pas faire une faute d'orthographe ?
Ah oui, mais ça arrive, parce qu'en fait
ça
quand
arrive.
On a le nez collé au tableau, on ne se rend pas compte, c'est parfois en retournant dans le fond de la classe ou à côté d'un élève, on regarde ce qu'on a écrit, on se dit, alors discrètement on va rechanger en disant, bah nous aussi on peut se tromper, voilà, mais...
Et est-ce qu'il y a toujours le premier de la classe qui dit maîtresse, vous avez fait une faute, le hainéant du petit Nicolas.
Ça arrive aussi. Oui.
Et est-ce que vous êtes intransigeante avec la grammaire ?
Alors intransigeante, non, parce que c'est tellement compliqué que bien malin et bien fier celui ou celle qui pourra m'affirmer qu'il ne se trompe jamais dans la grammaire.
Certes.
Voilà. Après, tant qu'on fait du mieux qu'on peut, bon.
Et du coup, est-ce qu'il y a une règle de grammaire qui vous paraît aberrante, très discutable ?
L'accord du participe passé, notamment avec les verbes pronominaux, moi je sais que ça amène à questions et à raisonnement. Par exemple, je sais pas, elles se sont lavées les cheveux, il y a un moment, on va étudier, donc qui est-ce qui s'est lavé, elles se sont lavées quoi, les cheveux, c'est OD, donc on n'accorde pas. Puis au final, en fait, on sait jamais vraiment si on écrit bien comme il faut le verbe. Donc en fait, généralement, moi ce que je fais, c'est que quand je suis pas sûre de moi, je change la phrase et le sens, enfin je change de mot pour pas avoir besoin de...
Elle est restée avec les cheveux sales, par exemple.
À la limite, voilà.
Et est-ce que vous avez un verbe qui, pour vous, est un casse-tête de conjugaison ?
Ah bah, le verbe aller. Enfin, après, nous, pour nous, quand le français est la langue maternelle, bon, on l'utilise régulièrement, ça va. Mais c'est vrai que pour les personnes d'autres origines que françaises qui apprennent ce verbe, ils comprennent pas qu'en fait, aller à la première personne, on dit je vais. Enfin, le rapport, il n'y en a pas.
Mais même quand c'est la langue maternelle, là, on sent que c'est l'institutrice qui parle, effectivement.
Ah non,
c'est la première difficulté de conjugaison, le verbe aller. C'est un grand classique.
C'est le verbe le plus difficile à conjuguer, en fait. Hein. C'est, parce qu'on se dit, il finit par ER, donc on le conjugue avec E, ES, E, etc. Sauf qu'en fait, ça devrait donner j'alle, tu alles, sauf qu'en fait, pas du tout. Donc, il y a une logique qui n'est pas du tout là. Mais bon.
C'est une forme d'aberration, effectivement.
Bah oui.
Et est-ce que vous avez une expression préférée ?
À cœur vaillant, rien n'est impossible.
Ah oui, mais c'est le côté chevalier, en fait.
Mais voilà, on y revient
médiéval. Et est-ce qu'il y a un anglicisme particulier qui vous exaspère ?
Oui, alors, scroller. Voilà, j'ai scrollé sur mon portable toute la matinée, ça c'est un mot qui me...
Ah oui, je crois que c'était le nom d'une bière, moi. Non, mais c'est vrai.
Je bois pas de bière, je ne connais pas, désolé.
Non, c'est vrai, scroller, là, c'est...
Ouais, c'est faire... Enfin, si j'ai même compris,
faire
c'est
dérouler,
faire glisser faire, les images, les trucs. Là,
faire dérouler sur les tablettes et les portables.
Ouais. Voilà, c'est...
C'est vrai qu'il y a beaucoup de vocabulaire numérique qui n'a pas toujours trouvé son équivalent en français, alors qu'il existe.
Oui.
Mais c'est la facilité aussi. Et du coup, est-ce que vous êtes plutôt Hugo ou Musso ?
Alors... on va dire que ça dépend des moments. Sur la plage l'été, je vais plus facilement être attirée par un Guillaume Musso. Et par contre, l'hiver, au coin du feu devant la cheminée, quand on a vraiment que ça à faire, Victor Hugo, oui. Voilà. Oui,
quand on peut se concentrer, puis autrement...
Voilà, puis qu'on a vraiment du temps devant soi pour étudier chaque détail et des romans de je ne sais combien de centaines de pages, oui.
Mais le facile à lire, quand on risque de s'assoupir ou qu'on est dérangé par les autres, oui, c'est mieux d'avoir des trucs faciles à lire.
C'est les romans feel good, comme on appelle ça, là, oui. Les petits Musso. Et
en français.
Voilà,
Easy listening.
Voilà.
Considérez-vous qu'on fait plus du tout attention aujourd'hui à l'orthographe, que c'était mieux avant? C'est ce qu'on entend aussi.
Alors, le « c'était mieux avant », moi, je suis pas fan de cette expression. Voilà, enfin, faut vivre avec son temps. Alors, peut-être qu'il y a des choses qu'on préférait avant ou sur lesquelles on accordait plus d'importance.
Mais le numérique porte un petit peu atteinte à l'orthographe, la facilité.
Bah, on le voit bien. Enfin, je veux dire, je suis pas une grosse fan des réseaux, mais quand je suis dessus, je le vois bien. C'est sûr que ça pique les yeux rapidement. Enfin,
ah oui, très très vite. Ouais.
Ah bah oui. Et moi, c'est vrai que je me dis, waouh. Alors bon.
Mais on a aussi les correcteurs d'orthographe qui parfois génèrent des fautes d'orthographe aussi.
Oui.
Donc c'est perturbant aussi quand on est en phase d'apprentissage pour les enfants, pour les ados. C'est une facilité, mais en même temps, on n'a plus de sens critique.
Bah, le problème, en fait, c'est souvent c'est les homophones. En fait. Les enfants, voilà, le C de Cébo et le C, les C livres, ça, c'est vrai que de plus en plus souvent, ils ont des difficultés à faire la différence.
Et on voit aujourd'hui des adultes qui ne savent pas non plus faire ces différences-là. L'exemple que vous donnez sur les réseaux sociaux, sur les commentaires qu'on peut voir sur les Facebook et autres, ça va, c'est bien.
Le ça va, SAVA, oui, moi ça m'arrache les yeux quand même, là. Le SAVA, oui, c'est...
Ça fait saigner, hein.
Oui, là je me dis quand même, bon...
Ça veut quand même dire qu'on a loupé quelque chose.
Ou alors peut-être qu'il n'était pas disponible à entendre et à retenir cet apprentissage-là, je ne sais pas.
Vous qui êtes institutrice, il y a eu des méthodes qui ont évolué dans le temps sur l'apprentissage, et dans les années 80, la méthode globale. Est-ce que vous pensez que ça a généré des difficultés, que ça a créé des générations un peu perdues?
Vous avez les pro-méthodes globales et les pro-méthodes syllabiques, ça c'est pareil, ça dépend des goûts de chacun. Moi, à titre personnel, j'ai toujours préféré la méthode syllabique qui fait que l'enfant comprend que le M et le A collés chantent « ma ». Donc après, en fait, ils vont encoder chaque syllabe et c'est ce qui va leur permettre d'avoir accès à la lecture. Alors que c'est vrai que la méthode globale, en fait, c'est la reconnaissance visuelle du début d'un mot ou d'un mot. Donc c'est vrai que, par exemple, la plupart des enfants, quand ils voyaient le début, le son « ma » dans un mot, d'instinct, ils vont dire « maman », alors qu'au final, c'était « Macédoine », par exemple. Donc ça, je pense que pour certains élèves, ça les a mis en difficulté.
Et aujourd'hui, on n'applique plus la méthode globale ou elle existe toujours?
Chaque enseignant fait comme il veut, mais de plus en plus, c'est la méthode syllabique quand même qui est recommandée. Oui.
Et qui a fait ses preuves comme étant plus efficace pour l'apprentissage.
Oui, et c'est surtout qu'à l'heure actuelle, vous avez énormément d'enfants qui ont des troubles dyslexie, dysorthographie, dyscalculie et d'autres troubles. Et qu'en fait, avec ces petits enfants-là, si vous ne faites pas une méthode syllabique ou une méthode vraiment adaptée qui décortique... vraiment le procédé d'apprentissage, c'est compliqué pour eux. Donc, et comme il y a de plus en plus, il faut nous aussi adapter la façon de faire, en fait. C'est à nous de nous adapter aux élèves aussi.
Est-ce qu'on a toujours les phrases qu'on a tous retenues, l'allée des lilas, la pipe de papa, tous ces mots-là, ça existe toujours dans les livres d'apprentissage? Alors vous êtes pour CM1, CM2, vous n'êtes pas en CP.
J'en ai déjà fait du CP, mais on a toujours des petits moyens mnémotechniques, hein, avec les CM, par exemple, pour les conjonctions de coordination, on revoit toujours « mais où est donc Ornicard ?» Moi, je leur ai transmis, je m'en rappelle encore, on me l'avait appris en CM1 ou CM2, je leur retransmets parce qu'en fait, ça... permet de se rappeler, et puis moi, 30 ans après, je m'en rappelle encore, donc bon, c'est que ça marche. Donc c'est pareil, ce qui marche, on le transmet.
Donc il y a des choses dont on se souvient tous qui existent encore. Ça donne un petit peu d'espoir quand même.
Oui, tout n'est pas fichu, c'est ce qu'il faut se dire. Hein.
Et pour quel mot avez-vous eu toujours un doute sur sa définition? Ça arrive comme ça d'employer des mots, et on se dit, finalement, est-ce que je l'emploie dans le bon sens, ou des mots qui sonnent?
Alors, c'est un mot qui est un petit peu à caractère un peu sartois, c'est le mot guenille. Moi, j'ai un peu pour habitude de dire « Oh, je me suis acheté une nouvelle guenille » ou alors « T'as une jolie petite guenille » dans le sens du terme vêtement, sauf qu'en fait, en y réfléchissant plusieurs fois, si on s'arrête un peu sur le sens même du mot, une guenille, c'est plutôt un haillon, un vieux vêtement. Donc, en fait, c'est peut-être pas forcément toujours bien pris par la personne en face, mais jusqu'à présent, on me l'a jamais dit, mais je me dis que peut-être, effectivement...
Ah oui, il faut tomber sur une copine sartoise, sinon...
Voilà.
Peut se vexer.
C'est pour ça, donc. Voilà, j'ai des fois un peu de doute sur le sens de guenille. Mais bon, sachez que si je vous dis que vous avez une belle guenille, c'est que je trouve ça chouette.
Bon, ben, ça me fait rebondir sur l'argot, puisque l'argot est aussi une langue en soi. Il y a beaucoup de noblesse dans l'argot. Est-ce qu'il y a un mot particulier qui sonne pour vous en argot?
Ah bah le mot bouiné, ça c'est surtout en Sarthe.
C'est la sartoise qui,
voilà,
qui parle.
Oui, la sartoise qui parle, là d'ailleurs, un petit bonjour aux copains du festival Qu'est-ce que tu bouines. Oui, bouiné c'est vraiment, enfin en Sarthe, moi je sais que je l'utilise très régulièrement. Enfin moi je dis pas, je dis pas qu'est-ce que t'es en train de faire, qu'est-ce que tu fais, c'est qu'est-ce que tu bouines.
Et puis
voilà,
en fait,
pas face aux élèves bien sûr, mais...
Oui. Quoi qu'il faut leur apprendre aussi.
Ils savent ce que ça veut dire.
Le patois local.
Voilà, c'est...
Mais du coup, bouiner, ça a même plusieurs sens.
Oui, à la base, c'est faire de la bouine, c'est faire un fromage assez fort en goût qui sera tartiné sur un bout de pain. Bouiner, c'est aussi faire des petites occupations, des petites créations. Et puis bouiner aussi dans un autre sens, c'est un peu qu'est-ce que tu bouines, c'est
qu'est-ce que tu fais, quoi.
Qu'est-ce que tu fais, quoi. Qu'est-ce que tu bricoles, voilà. Ou alors, j'ai pas bouiné grand-chose et
j'ai glandé.
Voilà, ça peut être ça aussi. Donc en fait, c'est un peu comme on l'entend.
En tout cas, c'est la vraie référence sartoise. Effectivement, on fait un petit coucou à nos amis du festival qui cherchent des fonds. Donc, n'hésitez pas à contribuer sur Eloasso pour les aider. Question piège, le Y, c'est une voyelle ou c'est une consonne?
Ah, c'est une voyelle.
C'est une voyelle?
Oui.
Vous savez que c'est les deux?
Oui, mais nous, on l'apprend dans les méthodes en voyelle.
Toutes les voyelles, A, E, I, O, U, Y.
Bah oui, parce qu'elles chantent comme le I, donc on ne va pas en plus rajouter de la difficulté.
Ils verront plus tard cette complexité.
Voilà.
Est-ce qu'il y a un mot français qui vous semble très international?
Le mot que j'entends le plus souvent, en fait, à l'étranger, quand les gens se rendent compte qu'en fait, je suis français, je pense que c'est dû à l'accent anglais qui n'est pas forcément au top. Je pense que ça se transmet à travers l'accent que je suis française. Et souvent, on me regarde avec un grand sourire, on me dit merci. Donc je pense que merci, c'est un mot quand même... français qui est connu internationalement.
Il y a le mot amour aussi, non?
Ouais, mais ça, on me l'a pas vraiment dit. Puis d'un côté, heureusement.
Je sens une pointe de regret.
Oh non. Non, merci, c'est bien, merci, c'est un beau mot. D'ailleurs, on le dit pas assez.
Et quelle est votre relation à la lecture et quelle transmission avec vos élèves? Là, en CM1, CM2, c'est un âge important pour donner le goût à la lecture. Comment vous vous y prenez?
Alors, le goût de la lecture, on essaie de le donner le plus tôt possible. Mais c'est vrai que dès le CP, moi, quand j'étais en CP, je leur donnais un petit livre à lire assez rapidement, des petits albums assez rapidement pour vraiment que ça fasse sens, en fait, de pourquoi on apprend à lire, à quoi ça sert. Et c'est vrai qu'en CM1, CM2, alors il y en a certains qui aiment beaucoup, d'autres qui aiment pas trop ça, mais par exemple, pour faire simple, moi tous les soirs, les devoirs qu'ils doivent faire à la maison, c'est je lis au moins 15 minutes. Donc et le livre de leur choix. Hein.
Et le livre de leur choix.
Voilà, et à la fin, quand ils ont terminé, ils me font un petit résumé à l'oral, devant les camarades, pour travailler l'aisance.
Vous tombez sur des livres, il y a des anecdotes là-dessus, sur le choix des livres, parce que c'est encore faut-il qu'ils trouvent un livre à la maison, c'est parfois difficile, j'imagine.
Alors, on en a dans la classe, j'en ai à moi personnellement, que je leur prête. Voilà,
mettez à disposition.
Oui. Très volontiers. J'ai dû mettre un peu à la page avec les Naruto et autres
les mangas,
voilà. Parce que c'est pas forcément quelque chose que je connaissais très bien. Donc, comme je sais qu'il y a un petit peu de tout dans les mangas, et notamment, faut bien faire attention à l'âge pour lequel c'est dirigé. Avant qu'ils présentent aux camarades, je me renseigne toujours avant de savoir si c'est adapté. Mais généralement, oui, hein, c'est soit c'est des livres de la classe, soit c'est des livres de la bibliothèque ou de chez eux, mais... c'est toujours adapté généralement.
Et est-ce que le programme pour ces classes-là, alors au collège c'est différent, mais le programme prévoit des lectures particulières, des auteurs ou pas du tout en
alors,
primaire?
Alors c'est assez général, il faut juste qu'en cycle 3 ils doivent lire 11 livres à l'année, 11 albums, oui, 11 livres. Donc ça paraît énorme, mais à savoir que vous avez des récits très courts qui peuvent être étudiés, c'est considéré comme un livre en entier, un écrit en entier. Et puis c'est vrai que on n'a pas tous la chance d'avoir des budgets pour acheter 25 éditions du même livre. Donc après, c'est à nous, en tant qu'enseignants, d'avoir pareil, des ressources personnelles. Donc après, moi, ce que je fais, c'est que je leur prête des livres à moi personnellement qui tournent dans la classe, en fait. Et puis après, sinon, on arrive à avoir les tapuscrits sur Internet, en fait. Donc on leur donne sous forme de feuilles, d'écrits, de fichiers, on travaille dessus.
Et est-ce que du coup vous faites appel à des dons de particuliers? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de bouquins qui ne trouvent pas acquéreur dans les brocantes, etc.
À l'école au Mans, là on est sur un projet bibliothèque justement, que je fais partie de l'organisation pour le faire. Et oui, on a fait plusieurs demandes de dons et puis on a des mécènes également parce que voilà, ça nous semblait être vraiment un projet important pour nos élèves. Et c'est vrai qu'on a plusieurs personnes qui sont très généreuses et qui sont bien aidantes pour ce projet. Donc normalement, l'année prochaine, on aura une belle bibliothèque à l'école des Sablons au Mans. Donc,
Et est-ce qu'il y a des auteurs qu'on a connus, nous, quand on était petits à l'école et qui existent encore
Ah oui, bah, y a des références, hein, surtout en poésie.
Les Prévert, tout ça, toujours d'actualité.
Les Fables de La Fontaine, voilà, pour moi, ils n'y échapperont pas. Ça fait partie quand même des classiques, de la base.
Marcel Aimé.
Après, le programme est très vaste. En gros, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Voilà, il y a des domaines, il y a des compétences à atteindre en fin de cycle. Après, si vous avez travaillé la poésie, vous pouvez le faire. Si vous voulez travailler le roman policier, vous pouvez le faire. Si vous voulez travailler la poésie, les haïkus, vous pouvez le faire. Mais il faut que tout soit en lien avec les compétences attendues à la fin du cycle. Mais après, en gros, si vous êtes un passionné de la littérature médiévale, vous pouvez travailler une période entière sur la littérature médiévale. Personne ne viendra rien vous dire tant que vous faites travailler les compétences attendues.
Et est-ce qu'il y a des nouveaux auteurs, donc des nouvelles générations qui sont rentrées à l'école?
Oh oui, surtout en album de jeunesse, oui, il y a des albums qui deviennent des références, notamment tout ce qui concerne les émotions. Vrai qu'à l'heure actuelle, on accorde beaucoup plus d'importance sur les émotions. Et il y a de plus
en plus... C'est pas Madame Joyeuse, Monsieur pas content, c'est pas ça?
Non. Ça, c'est les monsieur, madame. Non, c'est plus profond un peu. C'est vraiment, mettre un mot sur ses ressentis, sur ses émotions. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'élèves, en fait, qui se mettent en colère sans savoir, en fait, ce qu'ils ressentent.
D'accord.
Donc, pour aller mieux et savoir mieux le contrôler, il faut savoir ce qu'on ressent, en fait, et mettre des mots dessus.
Voilà.
Donc, il y a beaucoup d'œuvres autour des émotions maintenant.
Et pour terminer, est-ce que vous avez vous-même un conseil de lecture plus personnel, un auteur, quelque chose à transmettre à nos auditeurs? Quelque chose peut-être d'un peu atypique, ou nous rappeler des grands auteurs marquants qu'on a peut-être oubliés, qu'il faudrait relire?
Alors, je me garderai bien de donner des conseils de lecture, parce que c'est vraiment, c'est encore un milieu où on est à peu près libre de faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est chouette. Gardons cette liberté.
Ça peut être partager un coup de cœur aussi.
Oui, ah, les coups de cœur, oui. Voilà, après, ça va être considéré comme une auteure feel good, mais c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup Mélissa d'Acosta, par exemple. Voilà, je trouve que c'est des lectures qui sont assez légères, mais qui sont vraiment empreintes d'humanité, de liens entre les personnages, donc ça me plaît beaucoup. Mais après, à côté de ça, je vais être capable d'aller lire la biographie de Sœur Emmanuelle ou des romans sur le Moyen-Âge. Enfin, c'est hyper éclectique, donc moi j'ai envie de dire aux gens, tant que vous lisez, que ça vous fait du bien. Après, même si c'est un magazine, c'est pas grave. Enfin, je veux dire...
Et vous-même, vous lisez beaucoup, vous avez le temps, je sais que vous avez beaucoup d'occupations.
Bah non, malheureusement, enfin si, dès que je peux, je lis, mais pas autant que je voudrais, mais bon.
Vous conseillez à vos élèves d'aller dans les bibliothèques, alors il y a les bibliothèques de l'école peut-être, mais est-ce que vous pensez que les bibliothèques sont toujours fréquentées aujourd'hui?
Oh bah oui, par exemple, nous ils vont à la bibliothèque de l'Espal, et il y en a beaucoup qui y vont, et on y va aussi avec l'école.
Oui, vous faites des petits déplacements pour leur apprendre aussi la relation avec le livre.
Oui, bah pour moi oui, c'est fondamental. Parce qu'après, on va pouvoir me dire qu'on peut lire sur des liseuses, des tablettes. Mais, c'est encore pareil, c'est mon côté un peu vieille France, mais rien ne remplace les pages d'un livre.
C'est tout à fait vrai. Pour terminer, Maëlle, quel sera votre dernier mot?
Mon dernier mot, c'est que j'ai espoir et j'ose vraiment espérer que la langue française a encore de belles années devant elle. Et c'est vrai que les règles qui sortent un peu comme ça du chapeau de temps en temps pour enlever des circonflexes sur des mots ou autoriser une nouvelle orthographe parce que ça simplifie, moi je suis pas fan du tout. Voilà.
Oui, la simplification.
Voilà. Il y a un temps pour tout et après on se plaint qu'apparemment le niveau baisse, on fait plein de reproches, mais à côté de ça on fait aussi en sorte qu'on aille forcément pas vers le meilleur côté. Donc autant garder les mots comme ils sont écrits et puis voilà.
C'est aussi une année de Jeux Olympiques, on sait que la langue française fait partie des langues officielles des Jeux Olympiques, donc on peut se féliciter de la pérennité de la langue française quelque part face aux mastodontes anglais, mais on croise les doigts pour que ça dure. Maëlle, il me reste à vous remercier.
Mais avec plaisir.
Bonne fin d'année scolaire. Et puis, je vous retrouve bientôt avec un nouvel invité, un écrivain, Éric Pessan, qui s'est installé sur notre territoire il y a peu de temps. Et j'aurai la chance d'échanger avec lui à la prochaine émission. Au revoir à tous.
Aujourd'hui, sans faute.
Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami.